Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour et bienvenue aux auditeurs du matin. Nous vous souhaitons à tous un très beau lundi de Pâques. L'équipe de la matinale profite de ce jour chômé pour vous préparer un beau programme pour la suite de la semaine. Et pour vous faire patienter d'ici là, eh bien nous vous proposons quelques-uns de nos meilleurs entretiens à découvrir ou redécouvrir. Yvan Rioufol, Jean-Jacques Cordival ou encore Natacha Polony. Tous ces entretiens rediffusés sont par ailleurs disponibles sur le site internet de la radio, Radio Courtoisie, le site rc.fr ou encore sur notre chaîne YouTube Ligne Droite. Et pour commencer, un extrait du grand entretien de la matinale du 26 février dernier avec Arnaud Stéphan, l'ancien conseiller de Jean-Marie et Marine Le Pen, analyse la façon dont la gauche a installé un contre-récit après la mort du jeune Quentin assassiné par les Antifa.
Ligne droite. Le grand entretien.
Arnaud Stéphan, bonjour. Et aujourd'hui, en fait, si on vous invite, c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment la gauche installe son contre-récit et finalement, pourquoi est-ce que on a l'impression que la droite perd pied sur une affaire qui, je vais dire, accuse directement la gauche et presque directement un parti politique. Première question, tout simplement, ça fait depuis la mort de Quentin, depuis 2 jours après la mort de Quentin plutôt, que la gauche installe un contre-récit qui vise à dire dans le fond tout ce qui est arrivé à Quentin n'est pas si grave parce que, un, Quentin était fasciste, nazi, et donc sa mort a peu d'importance, et deux, dans le fond, l'extrême droite reste plus dangereuse que l'extrême gauche.
D'abord, ils ont fait quelque chose de très important à mes yeux, c'est qu'ils ont fait de la communication de crise. À savoir qu'ils ont pris l'impact de ce qui venait de se passer, de la mort de Quentin, et des accusations qui ont été immédiatement portées à l'encontre de militants, de la responsabilité de la Jeune Garde, des liens de la Jeune Garde avec la France Insoumise. Et ils ont laissé passer les 24-48 premières heures pour voir à peu près quel était l'état du terrain, quelles étaient les forces en présence et quelles étaient les attaques qui leur étaient adressées. La deuxième chose, c'est que, une fois de plus, ils ont constaté, en faisant de la communication de crise, qu'ils avaient une sorte de responsabilité. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On délocalise la responsabilité, on essaye de la fondre dans une responsabilité globale. Il y a eu la mort de quelqu'un, c'est affreux. D'abord, ils disent pas affreux, d'ailleurs, ils disent j'en sais rien, ils nient. Puis après, ils disent que c'est affreux, parce qu'ils voient bien qu'il y a une émotion. Donc, on répond à une émotion en essayant d'être raisonnable. Donc, on répond à cette émotion. Oui, c'est affreux, personne ne devrait mourir. Et la troisième phase, c'est ils essayent de sauver leur responsabilité. Non pas la responsabilité de M. Arnaud, parce que ça, ils s'en moquent complètement, ils le lâcheront au moment où il faudra le lâcher, c'est qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas seulement la Jeune Garde qui est attaquée dans cette histoire, mais la responsabilité du discours de la France Insoumise. Mmh. Et le discours de la France Insoumise, ça touche au chef, à Mélenchon. Et à partir de là, on change de braquet. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une justification des actions de la Jeune Garde, on est dans tous autour du chef, pour essayer de sauver l'image du chef, et de sauver l'image du candidat à l'élection présidentielle pour 2027. Donc il y a un glissement au fur et à mesure qui est passionnant à regarder, et puis vous avez immédiatement les petites mains dans les médias qui sont souvent issus d'écoles de journalisme où ils ont été très bien formés par des professeurs issus beaucoup de la France Insoumise ou de la gauche en général, de sociologues, etc. Et il y a l'armée de réserve de la France Insoumise qui se met en marche, celle qui est très introduites dans les médias, les petites mains, celles qui vont faire les invitations sur les plateaux. C'est celles-là qui sont redoutables. C'est pas forcément les chefs de service, les rédacteurs en chef. Faut pas penser qu'il y a une espèce de complot permanent dans les médias. Il y a ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le choix des invités ou la proposition des invités. Si on vous dit, tiens, j'aimerais bien avoir tel sociologue, plutôt centriste ou de droite, et puis les personnes qui s'occupent des invités vous disent, ah ben non, il n'est pas disponible. Oui. En revanche, on a un professeur à Paris 8 qui est très très bien, puisqu'en plus je le connais, ça a été mon professeur et mon chef de section, et mon chef de... Ça, pardon, je voulais passer à ce que je voulais dire. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des plateaux qui sont complètement délirant. Mmh. C'est-à-dire avec des plateaux, et ça a été le cas notamment, alors là c'est encore différent, sur des émissions comme C'est Politique, oui, et des choses comme ça, où vous avez, à part Monsieur Sugy du Figaro, vous avez la totalité des sociologues qui ont participé à des universités d'été, mmh, à la France Insoumise, en compagnie de Monsieur Arnaud de la Jeune Garde. Oui. Donc c'est complètement délirant. Vous avez des gens qui sont à la fois jugés partis, vous avez des études qui correspondent à rien, on l'a bien vu, je pense qu'on va en parler aussi, de ces études sur 90% des crimes politiques sont des crimes d'extrême droite, etc. Sauf que cette information, elle infuse. Et comme il n'y a quasiment pas de contrepartie, oui, vous avez pour un sujet sur le plateau, vous avez 10 professeurs à cheveux rouges hirsutes de Paris 8. Et donc, à ce moment-là, votre discours est très difficile à tenir. Après, vous avez les réseaux sociaux pour la reprise, mais vous touchez sur les réseaux sociaux un public qui est déjà, c'est votre fanbase. Vous touchez complètement les gens qui sont déjà convaincus et peu le grand public. Or, c'est le grand public qu'il faut essayer de convaincre. Et ça, ça a été la grande force, et on le voit encore, de la France Insoumise, c'est-à-dire d'être capable de très vite, une fois ayant les informations en main, de saturer l'information. Ils vont saturer l'information extrêmement vite, ils vont saturer les médias, ils vont saturer d'invités qui leur sont complètement acquis.
Et on a l'impression qu'en plus de cette saturation, parce qu'ils sont présents sur BFM TV, ils sont présents même sur CNews, ils sont présents sur LCI. Alors,
par expérience, BFM TV, c'est les pires en fait.
Oui.
Moi j'ai fait un an sur BFM TV, je voyais la composition des plateaux et je voyais quels étaient les gens qui faisaient les plateaux. Aujourd'hui les gens, il y en a un, il est très sympathique d'ailleurs, donc ça, je m'en veux un peu de dire ça, mais je suis très pas son nom, il s'occupait de la cellule, une des personnes qui s'occupait de la cellule invitée sur BFM m'avait dit, oh là là, vous avez été extrêmement dur avec monsieur Lecoeur, visiblement il le connaissait bien, Erwan Lecoeur, et je lui dis pourquoi, il avait pas l'air très choqué que Erwan Lecoeur ait été permanent de la France Insoumise, membre du cabinet du maire de Grenoble, pour parler d'un sujet dans lequel il est jugé parti. Et puis aujourd'hui, il est dans une célèbre émission d'investigation sur France Télévisions dont on sait qu'elle a quelques biais.
Quelle surprise. Mais alors oui, effectivement, il y a cette suroccupation avec ses petites mains, mais d'un autre côté, même dans le discours est devenu beaucoup plus offensif du côté de LFI quand même. On va parler un petit peu après de cette question des fameux 90% de morts de l'extrême droite, mais avant ça, on voit quand même que même Jean-Luc Mélenchon maintenant va appeler à la dissolution de Némésis, va complètement finalement renverser l'accusation en expliquant que c'est Némésis qui agresse la France insoumise, et de manière générale, on les voit maintenant sauter sur cette manifestation de Lyon en expliquant « Ah bah oui, regardez, il y avait des néo-nazis qui sont dans les rues, maintenant c'est ça le danger. »
Oui, oui, mais c'est encore rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mmh. C'est que pendant longtemps, c'était une partie de la presse avec des gens qui eux-mêmes avaient des passés politiques. Mmh. Vous avez des anciens directeurs de l'information qui ont été nommés sur liste du Parti communiste à l'époque où François Mitterrand était arrivé au pouvoir. Ces gens-là sont restés pendant 25 ans dans les médias. Donc vous aviez des adversaires de la cause nationale ou de la droite tout court avec des positions extrêmement forte au sein des médias. Puis il y a eu la privatisation des médias, mais ça n'a pas changé grand-chose en vérité, la privatisation des médias. Parce que le substrat sociologique et d'où viennent ces gens qui sont en responsabilité dans ces médias, dans ces médias même privés ou d'information en continu, il suffit de regarder là où ils ont été, là où ils ont été formés. Vous avez l'école de journalisme de Lille, qui fournit énormément de journalistes et de jeunes dans les rédactions. Et pour nos auditeurs, je vais juste vous donner un petit détail, c'est que M. Émeric Caron était professeur dans cette école. Donc c'est pour vous donner quand même le substrat idéologique.
Et puis même Sciences Po Paris n'a pas changé beaucoup de sociologie
depuis 30 ans, 40 ans.
Quoi,
bien sûr, bien sûr. Et vous avez, et là, encore une fois, la force... c'est que les gens de la France Insoumise assument complètement, parce qu'ils ont compris quelque chose, c'est que ce qui était déterminant pour eux, c'était de rassembler leur camp en vue du premier tour. Mmh. D'abord les municipales, où ils vont mettre une pression terrible sur le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, vous avez remarqué, est relativement discret. Oui. En tout cas, il y a un certain nombre de personnalités du Parti Socialiste qu'on n'entend plus du tout. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils savent bien qu'ils sont tombés dans un piège mortel au moment des législatives anticipées. C'est qu'ils ont eu un très bon accord, hein, avec 120 circonscriptions. Ils ont réussi à se faire élire dans une soixantaine. Mmh. Sauf que ces circonscriptions, il y en a une grande partie qui sont complètement à la main de la France Insoumise. Mmh. La France Insoumise a fait exprès de leur donner, de leur accorder un accord plutôt favorable, mais en vérité c'était un accord qui tenait le Parti Socialiste. Donc voilà, il y a les municipales, le Parti Socialiste a véritablement besoin, et ça a été très bien dit par le camarade Bousquet, il dit un parti ça a besoin d'avoir des militants. Mmh. Ben, le Parti Socialiste n'a plus de militants.
Mais non.
Qu'est-ce qu'il y a des militants? C'est la France Insoumise. On verra comment ça se passe à Marseille. On verra comment ça se passe dans de grandes villes où M. Doucet, d'ailleurs, à Lyon, mmh. alors même que c'est là où Quentin a été tué, commence à dire, oui, bon, bah, au deuxième tour, on verra, il y aura peut-être des accords, il faudra qu'ils disent qu'ils sont contre la violence. Mais qui va dire qu'il est pour la violence? Personne, mmh. évidemment. C'était juste un prétexte, et on verra comment ça se passe. Et je le dis, j'ai la chance d'être sur des médias d'information nationaux, je le dis, je le répète, on verra au soir du premier tour les changements de veste, les retournements d'attitude morale, parce qu'ils ont besoin d'avoir le soutien des LFI, parce que c'est la puissance militante, c'est la puissance financière, c'est même quasiment la puissance idéologique. Oui. Je veux dire, il n'y a rien idéologiquement qui sort du Parti Socialiste aujourd'hui. Je veux dire, même des Verts, ils sont complètement à la remorque. Donc, il y a cette puissance centrale de la France insoumise. Est-ce qu'elle est fragile? Est-ce qu'on est obligé de faire avec la France insoumise? Bah, pour l'instant, on est un peu obligé de faire avec la France insoumise.
Oui, et puis même ceux qui essayent de passer à côté avec cette primaire de la gauche, ça a l'air quand même un petit peu bancal affaire. Donc,
vous avez la primaire de la gauche à laquelle refuse de participer un candidat qui s'est retrouvé à 2% du second tour à deux reprises. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir, c'est très gentil, Madame Tondelier et ses amis, de se réunir, mais enfin, à part d'être dans une cabine téléphonique, ils font pas grand-chose. Oui. C'est pas encore une fois, il faut peser. Et il faut peser sur la représentation de ce qu'est un parti politique. Parti politique, c'est un endroit de sociabilité.
Alors, revenons justement à ce qu'est... est-ce qu'il y a un parti politique pour parler donc du Rassemblement National de l'autre côté? Le Rassemblement National, lui, on a du mal à le lire en fait dans cette séquence. On a l'impression qu'il est dans le contrôle des dégâts permanents pour surtout pas prendre de risques sur une telle affaire où on l'aurait attendu plutôt à l'offensive.
Parce que vous avez un... on va dire un candidat putatif qui est Monsieur Bardella, et Jordan Bardella n'a jamais fait de campagne de cette taille-là, la présidentielle à laquelle il se prépare, même s'il doit pas se préparer, mais il se prépare quand même, et qu'il tombe dans l'écueil classique, c'est-à-dire qu'il joue le deuxième tour avant de jouer le premier. Mmh. Le premier tour, il faut rassembler son camp. Je pense qu'il y a...
Il est donné à 36% dans les sondages au premier tour.
Oui, si les gens votent. C'est toujours pareil, c'est que oui, c'est très important. L'expérience, je sais ce que c'est puisque j'ai fait un certain nombre d'élections présidentielles. L'expérience nous dit attention à ces sondages qui nous mettent très haut. Très bien, c'est un indicateur. C'est pas une sûreté totale de résultat. C'est une sûreté de vote, c'est-à-dire que les gens disent si je vote, je voterai Rassemblement National. On se souvient quand même qu'il y a eu des municipales, des régionales, où il y avait eu une faible mobilisation de l'électorat RN. Mmh. Marine Le Pen était passée à la télévision pour dire « Allez voter, qu'est-ce que vous faites ?» etc. Ça n'avait pas été suivi des faits, et le résultat attendu du RN n'avait pas été bon. Pour l'élection présidentielle, c'était un petit peu différent, parce que c'est une élection qui marque beaucoup, qui est centrale dans la vie politique française. Il n'en demeure pas moins que si vous envoyez des messages extrêmement troubles à votre électorat, que vous jouez un autre électorat avant de jouer le vôtre, vous risquez d'avoir une faible mobilisation. Donc j'alerte depuis des semaines en disant attention, ne jouons pas le deuxième tour avant de jouer le premier. Il faut d'abord rassembler ce socle granitique, comme disent les sondeurs, qui est autour de 20 à 25%. Et après, vous arrivez à gagner au fur et à mesure des pourcents parce que la campagne se passe bien, parce que vous avez, parce que la campagne nationale, les thématiques sont les vôtres, et qu'à partir de ces 20-25%, vous commencez à bâtir votre score du premier tour. Mmh. L'objectif, c'est sortir premier le soir du premier tour, avec la marge la plus confortable par rapport à vos adversaires.
Parce que la peur, quand même, du Rassemblement, enfin, l'idée du Rassemblement National, on a l'impression, c'est quand même de toujours poursuivre cette logique de dédiabolisation qui a été enclenchée par Marine Le Pen il y a environ 15 ans. Et finalement, ce qui les mène à voilà, ne pas participer, demander à ne pas participer aux manifestations d'hommage à Quentin, à lâcher des collaborateurs parlementaires, François Bousquet en parlait. Selon vous, en fait, il y a aussi cette idée que le milieu militant nationaliste, ça représente quasiment personne en fait, ouais, en électorat. Donc, dans le fond, pourquoi faire plaisir à ces gens-là?
Parce que vous avez des gens qui sont aujourd'hui à la tête du Rassemblement National, mais Marine Le Pen à part. Mmh. Parce que l'héritage autour de son père, tout ce qu'elle a vécu, elle connaît très bien ce qu'est le militantisme, il n'y a pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, elle est très éloignée de ça. Et les gens qui sont aux affaires du parti ne savent pas ce que c'est que le militantisme. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un parti politique. Ce sont des gens qui ont transformé un parti qui déjà structurellement n'était pas super fort. Mmh. Voilà. Ils l'ont transformé en une machine électorale qui commence à marcher pas mal. Mmh. Ce qui est, il faut reconnaître, le score et le nombre de députés du Rassemblement National sur les deux dernières législatives est très encourageant. Il n'en demeure pas moins que quand vous n'avez pas cette culture, vous en avez une autre. Mmh. Et que cette autre, c'est de se dire, attention en termes d'image, je dois correspondre à ce qui me permet, pense-t-il, d'avoir ces scores aux législatives. Mais c'est pas ça, leur score aux législatives, c'est pas ça, c'est pas la qualité de leur campagne, ni leur attitude. Leurs campagnes sont relativement, je parle pas de la présidentielle, encore une fois, ce qui est un autre modèle. Elles sont relativement médiocres, en termes de d'image, en termes de discours, on reste en vérité sur les fondamentaux. Mmh. Et c'est ce que veulent entendre les électeurs. Mmh. C'est-à-dire qu'on parlait d'insécurité, d'immigration, de tout ce qui a toujours été le discours de fond et de base du Front National, puis du Rassemblement National. Après, vous pouvez rajouter les questions sociales, mais qui sont liées à l'évolution de la société, la mondialisation, etc. etc. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et encore une fois, essayer de courir après des électorats qui n'existent plus vraiment. Je veux dire que quand vous entendez, ah oui, ce qui est bien avec Jordan Bardella, c'est qu'il cherche à ramener l'électorat LR. Mais de quel électorat parle-t-on? Non, mais de quel électorat parle-t-on? Faut rappeler que LR a fait 5% aux dernières législatives.
Présidentielle, oui, bien sûr.
Non, législative, ouais. Législative, c'est 5% et ils font moins de 4, ils font moins de 5 à l'élection présidentielle. Donc c'est pas terrible, quoi. Je veux dire, on va pas non plus complètement se déjuger ou oublier qu'est-ce que l'identité d'un parti qui défend l'identité. Je veux dire, si c'est pour nous-mêmes nier notre identité par rapport à ce qu'a été le Front National et ce qu'a été le Rassemblement National, oui, il y avait des choses à changer. Mais tout le monde l'a toujours dit, puisqu'il y avait même eu des scissions, etc. Il y a beaucoup de choses, mais qui étaient plus dans la pratique politique, dans l'organisation politique, dans un discours qui évoluait trop et qui quelquefois était dans la caricature. Oui, il fallait changer un certain nombre de choses. Il fallait vers l'efficacité. Moi, encore une fois, je ne veux pas charger la mule, mais je vois ce qui s'est passé lors des élections législatives anticipées. Il y a eu des récits absolument terrifiants du plan Matignon. Oui. Donc il n'y a pas plus de plan Matignon que de beurre en branche. Et pourtant, vous aviez une équipe de 6 personnes qui étaient censées travailler à ce plan Matignon. Donc visiblement, il n'y avait pas de plan Matignon. Donc tout ça est cher payé pour des résultats qui, pour l'instant, sont toujours en attente. Ça fait... À quel moment la situation nécessiterait d'être pire et d'avoir un vrai coup de plus pour le Rassemblement National. Je veux dire, on est à 3300 milliards, je ne sais plus à combien ça évolue tous les jours, 3300 milliards de dettes, vous avez une immigration incontrôlée, vous avez une insécurité complètement dingue, vous avez un nombre d'homicides qui explosent. Enfin, à quel moment les planètes ne sont pas alignées pour le Rassemblement National. Il faudra peut-être se poser, c'est plutôt au Rassemblement National de se poser la question de savoir que pourquoi, alors que toutes les planètes sont alignées, alors que les thèmes qu'il a défendus depuis longtemps aujourd'hui sont complètement sur la place publique, dans les médias, dans les cercles de réflexion, pourquoi il n'arrive pas encore à gagner.
Arnaud, Stéphane, je rappelle donc que vous êtes fondateur de La Note de Com, ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal et Marine Le Pen. Nous parlons actuellement, pour les auditeurs qui nous rejoindraient, du contre-récit qu'on peut apporter, qui est apporté par la gauche et que le RN apporte aussi dans cette affaire Quentin, de la structure du Rassemblement National. Et puis je rappelle aussi à nos auditeurs qu'ils ont tout intérêt à nous faire un don.
Effectivement, cher Alexandre, votre soutien financier est indispensable à la survie de Radio Courtoisie, donc je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien encore de nous adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup, Arnaud.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, Arnaud, Stéphane, je reviens vers vous. Donc, on était sur une question qui semble assez centrale, qui est le RN et ses militants, dans le fond. Parce que il y a aussi un sujet qui est que comment ça se fait que toutes ces personnes, même qui sont collaborateurs parlementaires et qui se retrouvent à être à la fois dans des groupes identitaires ou nationaux-révolutionnaires et à la fois au Rassemblement National, à avoir des engagements à côté quelque part, on a l'impression qu'ils n'ont pas de vie militante forcément au sein du Rassemblement National et à côté de ça, qu'il y a une forme de, vous l'avez dit, de manque de formation des cadres, mais même une forme de d'enrégimentement presque du militant que peut avoir la gauche, par exemple.
Alors oui, c'est très différent. C'est deux approches qui aujourd'hui sont complètement différentes. La grande faiblesse des partis politiques en général, c'est la disparition des vraies structures militantes. Tout à l'heure, je parlais d'un lieu de sociabilité. Un parti politique, c'est d'abord un lieu de sociabilité aussi. Vous avez des camarades politiques, vous les voyez, il y avait la réunion de la section, etc. Ça a quasiment disparu. Les gens en piscine, ils peuvent pas, ils préfèrent tweeter plutôt que d'aller en réunion. Il y a aussi le sentiment d'inutilité de ces réunions parce que vous travaillez vos réunions et puis hop, le parti vous envoie un crâne d'œuf qui est plus du tout votre candidat, qui a aucun rapport avec la circo à part qu'elle est très bonne et que donc c'est un endroit pour se faire élire et que vous avez tout d'un coup un candidat que vous ne connaissez pas. Voilà, donc il y a une désespération, une désespérance en tout cas. Et puis, vous avez aussi quelque chose, à mon avis, de fondamental, c'est que l'ensemble des partis politiques, ça ne concerne pas que le Rassemblement National, loin de là, hein, il ne faut pas non plus blâmer le Rassemblement National, qui encore une fois fait quand même les scores qu'il fait et représente. Mais si on a deux minutes, on va en parler d'ailleurs de ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement de jeunesse. Les partis politiques ne se sont pas occupés de leur mouvement de jeunesse. Donc, vous êtes obligés, comme on dit dans l'industrie d'armement, ou pas d'ailleurs, il n'y a pas que l'industrie d'armement, on est obligé d'acheter sur étagère. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas dans le parti, vous êtes obligé d'aller le chercher à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont des gens qui ont été formés à l'extérieur, c'est pas vous qui les avez formés. Et puis, vous avez... quand les gens ont été formés dans les mouvements de jeunesse, ils savent qu'il y a des choses qu'on leur a apprises. Encore une fois, ils ont été formés, ils ont été encadrés. Donc on fait attention à ce que justement il n'y ait pas de débordement. On leur explique justement le danger du débordement pour l'image du parti. On leur explique un tas de choses. Et puis, on crée aussi son service d'ordre pour tenir les manifestations, y compris tenir ses propres militants.
C'est ce qu'a le Rassemblement National, par exemple.
Il n'y a plus de service d'ordre. Que si vous comparez ce qu'était le DPS à l'époque de Jean-Marie Le Pen, ça n'a plus rien à voir. Et plus ancien, pour ceux qui s'en souviennent, les DOM, qui était l'ancêtre du DPS, qui était sous la responsabilité du célèbre Popeye au FN à l'époque, ça n'avait rien à voir. Non. Et puis vous aviez des sections locales, tout ça était très organisé. Mais plus vous avez de militants, plus vous avez de mouvements jeunes, plus vous risquez des ennuis, en fait.
Oui.
Et donc, avant, les gens se retrouvaient en disant « Ah tiens, on va les coller, on va les tracter. » Maintenant, les collages, c'est la nuit, on peut tomber sur des gens, donc on essaye de faire... il y a moins en moins de collages, on donne ça à des entreprises privées. C'est quelque chose qui a complètement disparu. Ce qui n'est pas le cas, en revanche, Alors, c'est la même chose chez LR, au Parti Socialiste, au RN, etc. Vous pouvez les nommer. Ce qui n'est pas le cas dans deux mouvements, à mon avis, qui sont aujourd'hui... un qui est très important, un qui l'est un peu moins, mais qui a gardé cette structure. Du côté de la droite, bah, c'est Reconquête, où je trouve qu'il y a quand même une culture militante qui est restée. Et puis, vous avez la France Insoumise. De toute évidence, la France Insoumise, ils tiennent le terrain. Je veux dire, il suffit d'aller... là où il y a des candidats, et vous allez voir comment ça se passe. Mais c'était intéressant parce que regardez le nombre de contenus que fournissent la France Insoumise et ses affidés. C'est colossal.
Oui.
C'est colossal.
Et même on peut parler de cet Institut La Boétie aussi qu'ils ont lancé. En l'occurrence, ils ont quand même des réunions très régulières, ils ont des notes qui produisent. Et puis, on
des
a
éléments de langage, des notes techniques.
Et puis ceux qui sont concernés quelque part, c'est tous les cadres, même intermédiaires,
oui.
Pas seulement les députés, pas seulement les responsables quelque
part. Et vous rajoutez les causeries très régulières de Jean-Luc Mélenchon, où il tient le crachoir pendant 3 heures pour expliquer la situation. Oui. Mais c'est... Lui a été très bien formé, puis il a été formé chez Lambert, et il a gardé cette idée de causerie où on explique la situation de manière très régulière. Mais ça c'est passionnant, parce que regardez ce qui se passe sur l'affaire Quentin. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai passé quelques coups de téléphone. Alors, ah oui, peut-être, je sais pas. Bon. Je parle des gens qui sont susceptibles d'être dans les médias et qui ne sont pas de la France Insoumise, bien au contraire, nous n'avons aucune coordination. Personne ne sait qui va aller faire quoi, il n'y a pas d'éléments de langage, on n'essaye pas de discuter, on n'essaye pas d'avoir des... Personne m'appelle en me disant « Tiens, il y a une étude, peut-être que tu ne l'as pas vue. »
On parlait tout à l'heure, Arnaud Stéphane, des 90% de morts en termes de crimes politiques qui viendraient de l'extrême droite.
Mais bien sûr, ça c'est atypique. On a été obligé de discuter là-dessus pendant des jours.
Oui.
On en discute encore. Des plateaux entiers, avec cet élément de langage facile à récupérer, donc qui est utilisé par les médias, qui n'ont pas vérifié.
Qui n'a toujours pas été, en plus, vraiment invalidé, alors qu'il y a tous les éléments pour. C'est-à-dire que vous, par exemple, j'ai vu que vous aviez fait quelques tweets. Voilà, vous parliez de tweets. Vous avez fait quelques petits tweets, justement, à ce sujet. On parlait de Paul Sugy, qui était sur le plateau et qui en avait un peu parlé. Mais il n'y a pas eu un... gros papier, il n'y a pas eu une note qui a été produite par un de nos nombreux instituts qu'on a désormais à droite pour faire le contre-récit de ça, parce que c'est évidemment faux.
Rien. Voilà. Moi, je suis très content de venir sur Radio Courtoisie, mais je vais vous dire un truc.
Oui.
Ça fait 7 ans que je fais des médias maintenant. J'ai été pigiste, donc, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser, sur LCI pendant quasiment 4 ans. J'ai travaillé sur BFM TV, je suis aujourd'hui sur France Info. Bah ouais, mais France Info, ils m'invitent et je parle et je dis ce que je veux. Donc ils sont très gentils et je vais pas alors là Marc Hénault est aussi de Valeurs Actuelles, donc on va pas leur dire qu'ils sont méchants à pas nous inviter puisqu'ils nous invitent. Donc j'ai quand même plusieurs plateaux par semaine sur France Info. Mais c'est la première fois c'est la première fois que je suis invité sur Radio Courtoisie. C'est la première fois. Je dois faire plusieurs centaines de plateaux à l'année. Je suis aussi sur une autre chaîne de radio qui s'appelle Sud Radio, où j'y suis toutes les semaines. Je ne suis jamais sur les médias.
Réjouissez-vous.
Mais oui, mais justement, je vous remercie aujourd'hui d'être là. Mais je n'y suis jamais.
Ouais.
Voilà. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que il y a une espèce de biais de confirmation qu'on a chez nous, mais c'est aussi notre faute. Hein. Vous avez les gens qui disent je suis allé sur CNews. C'est bien. Mais je veux dire, c'est pas sur CNews où vous allez vous faire secouer par trois sociologues qui vont arriver avec des notes en disant 90%, etc. Et d'ailleurs, nous sommes universitaires, nous avons la science infuse, et en plus la personne qui anime le plateau vous dit quand même, eux ils ont fait une vraie étude, c'est scientifique, ils sont du CNRS. C'est ça, c'est le mec du CNRS qui qui font ces études. Et vous, vous arrivez, ah oui, mais non, moi, je suis pas d'accord, parce que je me souviens que Bidule, en vérité, il n'était pas vraiment d'extrême droite, mais un petit peu, mais pas vraiment. Vous partez dans un discours qui est incompréhensible, et je pense que tout ça mériterait d'avoir un peu plus de corps. Mais c'est notre problème. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une archipélisation aussi, une archipélisation à droite. Tout le monde parle de Chevalier, tout le monde parle de Saint-Louis ou de Ragnar, le Viking, et tout le monde se comporte comme un boutiquier. Et ça m'embête petit peu.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que chacun a sa chapelle, chacun a son institut. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis toujours surpris du fait que l'Institut pour la justice, l'Observatoire pour l'immigration, l'Observatoire des violences politiques, enfin, toutes ces choses-là, par exemple, travaillent assez peu en lien apparent avec le Rassemblement National.
Ou avec qui que ce soit.
Ou avec qui que ce soit, d'ailleurs.
Personne ne m'a appelé, encore une fois. Depuis l'affaire Quentin, j'ai dû faire pas loin d'une vingtaine ou un peu plus de plateaux au total. Enfin, je veux dire, c'est complètement déliant. Je cherche moi-même toutes les informations que je vais présenter sur les plateaux. Mmh. Alors, c'est pas non plus la physique quantique, mais enfin, il faut que je me tape. Je l'ai lu, moi, l'étude qui dit qu'il y a 90%. Je me la suis tapée. J'ai été la chercher sur la revue parlementaire, politique et parlementaire. J'ai été écouter les vidéos de ces gens qui nous expliquent comment ils ont fait, les biais qu'ils ont utilisés, etc. Tout ça, je suis obligé de le faire. Mais encore une fois, je peux pas à la fois avoir mon activité professionnelle, aller sur les plateaux, faire les recherches, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, nous serions dans le camp d'en face. Vous inquiétez pas qu'il y a une coordination, qu'ils ont les études.
Oui, il y aurait déjà eu une thèse du CNRS qui serait sortie.
Mais bien sûr. Il faut sortir de ce truc-là. Tout le monde a sa petite boutique et tout le monde se dit. Regardez ce qui s'est passé avec French Carcan.
Oui.
C'est quand même extraordinaire. Mmh. Ces gens font un travail fabuleux. Mmh. Ils dérochent des heures et des heures et des heures et des heures de contenu, pas forcément des contenus les plus sexy. C'est souvent des réunions ou des blogs un peu inconnus du grand public. Et ils trouvent des choses extraordinaires, fantastiques.
On peut louer aussi Twitch Gauchiste dans le même
exactement
dans le même esprit, qui effectivement va regarder tout ce qui sort sur Twitch, donc en direct sur la plateforme.
Et ben, leur contenu a été utilisé.
Bah oui.
Et il a fallu qu'ils tweetent pour expliquer que Monsieur Pro devrait quand même citer French Carcan de temps en temps. Et d'ailleurs, j'ai vu la scène. Il a dit, ah ben je ne savais pas, mais c'est marqué dessus, mais je ne les connais pas. Bah oui, mais il ne connaît pas, mais il a utilisé leur contenu. Et voilà, et j'ai peur que de travailler tout le temps de manière complètement éclatée, en gardant chacun, en disant, ah bah oui, mais si je parle de son blog, c'est le sien qui va monter. Ça, on ne cherche pas l'efficacité, en fait. Cet esprit de boutiquier, c'est pas possible. Aujourd'hui, on voit bien. Il y a eu un meurtre affreux de Quentin et on se retrouve, nous, à jouer sur les talons.
Mmh. Oui,
en se disant non, c'est pas vraiment ça, il n'y a pas de néo-nazis, mais l'humanité qui sort un papier. Mais depuis quand l'humanité fait des papiers d'investigation? Mais c'est curieux. En un an, ils en ont sorti plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, ils font pas ça. C'est un journal qui tient par l'opération du Saint-Esprit et avec nos impôts.
L'opération du Saint-État, même, d'ailleurs.
Oui, du Saint-État, plutôt. Vous avez raison. Ils font pas d'investigation, c'est pas vrai. C'est quand la dernière fois qu'ils ont sorti un scoop. Enfin, tout ça est bidon. Mmh. Mais ils sont fournis, ils ont des éléments qui leur sont donnés. Comment sommes-nous défendus par rapport à cette histoire soi-disant de guet-apens qui aurait été organisée par alors les jeunes femmes de Némésis prennent très très cher en ce moment. On appelle alors
d'ailleurs on aura Mathilda dans 10 minutes qui viendra justement expliquer toute cette histoire. Donc,
mais oui, mais c'est il aura fallu 72 heures pour qu'elle explique cette histoire. Une opinion, elle se forge dans les 24-48 premières heures. Donc c'est très bien qu'aujourd'hui, et moi je trouve que ces jeunes femmes sont extrêmement courageuses, et je suis ce qu'elles font, mais il n'empêche que personne ne les a vraiment aidées. Là aussi.
Oui, alors c'est quelque chose d'assez fascinant, c'est que c'est quand même un mouvement qui existe depuis plusieurs années, qui globalement est un peu irréprochable parce que c'est pas un mouvement qui a jamais été impliqué dans des bagarres, dans des affaires sombres ou quoi que ce soit.
Celles qui
et
sont
là,
tapées.
En plus, c'est plutôt ça. Et là, à la première tension, Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de grand soutien de la part du Rassemblement National. Par exemple, il n'y a pas de soutien de la part de la plupart des structures. Il n'y a pas d'esprit de groupe, alors que c'est quand même, comment dire, un collectif qui s'est quand même fait connaître par, le fait que ce soit justement très propre et que
esprit de boutique.
Ça marche.
Oui, esprit de boutique. Voilà. Ah bah non, elles sont pas chez nous, donc si elles sont pas chez nous, tant pis. Mmh. Ou ce qu'elles font, bah nous on le fait pas, donc on va pas dire que c'est bien, parce que sinon on va nous dire pourquoi vous le faites pas vous. Mmh. C'est, l'effet de contraste est terrible en vérité. Ce que font un certain nombre de mouvements, c'est-à-dire de revenir sur ce qu'est la gîte propre, comme Némésis, la gîte propre, on est incapable de le faire. Dans quel pays le parti politique d'une candidate comme Marine Le Pen qui a été deux fois au deuxième tour de l'élection présidentielle, qui a les sondages qu'elle a en ce moment, et qui se retrouve, pour reprendre l'expression, et vous, encore une fois, les auditeurs nous excusons, mais c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation du droit pour empêcher ou pour faire de la politique, et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez une offensive qui est à la fois médiatique et judiciaire pour vous empêcher. C'est ça. Et la réponse du Rassemblement National, c'est quoi? Bah rien. C'est-à-dire, il y a eu un pauvre meeting mal organisé où il y a eu 3500 personnes à Paris sur une place trop grande. Mais dans n'importe quel autre pays, il y aurait des manifestations toutes les semaines. Il y aurait des manifestations en permanence devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour d'appel. Il y aurait des... Ah non, 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 surtout pas. Mmh. Mais pourquoi on le fait pas? Et pourquoi ils sont pas allés à Lyon non plus? Parce que la faiblesse structurelle. Le problème, c'est que si le RN aujourd'hui avait organisé une manifestation, ils pouvaient organiser une manifestation. Ils avaient qu'à faire même leur propre parcours. Mmh. Ils avaient même à faire leur propre manifestation avec leur service d'ordre pour bien être sûr de ne pas se mélanger avec qui que ce soit s'ils avaient eu peur. C'est ce que fait le Parti communiste, c'est ce que fait la CGT. Mmh. Ils se mélangent pas avec
ils ont leur partie du cortège.
Ils ont leur partie du cortège. Et puis même, ils auraient pu avoir leur parcours à eux. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Bah parce que sinon, ils seraient retrouvés à 400. Mmh. Parce qu'ils ne savent plus organiser ce genre de choses. Je veux dire, aujourd'hui, la jauge d'un meeting du Rassemblement National, et encore une fois, moi, je n'ai pas de problème. J'ai travaillé avec Marine Le Pen, pour laquelle j'ai la plus grande admiration. Mais la jauge d'un meeting du Rassemblement National aujourd'hui, c'est entre 3500 et 4000. J'aurais juste rappelé qu'en 1988, Jean-Marie Le Pen faisait des meetings au stade Vélodrome.
Mais alors comment vous expliquez que quand même l'électorat a triplé, quadruplé, et que dans le même temps, le nombre de militants réels a baissé? C'est quand même fascinant.
Non, c'est que vous êtes passé dans autre chose. Vous êtes passé sur une logique totalement électorale et plus du tout dans une organisation sociale qui est un parti politique. Mmh. Et vous le voyez bien. Vous n'avez à une époque, vous aviez entre 30 et 40% du corps électoral qui avait déjà voté Rassemblement National une fois, mais vos scores étaient autour de 13, 15%. Mmh. Donc ça voulait dire que vous aviez vraiment des électeurs qui, une fois, votaient pour vous, une fois, ne votaient pas pour vous. Ouais. Mais encore une fois, la situation sociale, sécuritaire, etc. a énormément évolué. C'est-à-dire, si aujourd'hui le Rassemblement National fait 30 ou 35% des voix, c'est pas dû au hasard, c'est aussi parce que ce qu'il dénonçait depuis des dizaines d'années se confirme malheureusement. Et vous passez donc de 10% dans les années 80. Enfin, la croissance est très lente. Alors, c'est dû à plein de choses, le cordon sanitaire, la désinformation, mais aussi une faiblesse structurelle. Encore une fois, je ne veux pas être cruel, tout le monde va me tomber dessus en disant « Ah, mais rien ne va », etc. Ben, je ne sais pas. Aujourd'hui, pour les élections municipales, le Rassemblement National, premier parti de France, comme c'est dit dans la publicité, va présenter 700 listes. Il y a 36 000 communes en France. Juste pour un petit chiffre chez vous, LR aujourd'hui, qui représente plus grand chose, a 10 000 villes.
Voilà. Ouais, bah, bien sûr.
Donc c'est comme ça qu'ils tiennent le Sénat, c'est comme ça que voilà, etc.
Et en plus, c'est même, j'ai envie de dire, comme ça qu'ils arrivent à avoir des personnes qui durent dans les institutions et qui se forment elles-mêmes en devenant maire, en devenant sénateur, même s'ils n'y connaissent rien à l'origine. De toute façon, c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est en devenant conseiller municipal.
Bien sûr. Bien sûr.
Mais en l'occurrence, effectivement, ben, on voit qu'on a un train de retard, que ce soit au niveau de...
Plus de coordination, plus de travail en commun, plus de travail tout court. Arrêter de travailler en silo, partager les informations, se coordonner. Et puis, arrêter d'avoir peur systématiquement de tout. Je veux dire, les jeunes femmes de Némésis, c'est extraordinaire ce qu'elles font. Enfin, je veux dire, on a la chance d'avoir ces jeunes femmes courageuses. Et en plus, qui ont un positionnement extraordinaire. Et pourquoi personne les... Ben, pourquoi le soutien est aussi timide? Genre, ça va, quoi. Genre, quand vous avez des militants de la CGT qui retournent tout, eux, qui font des actions violentes, alors que Némésis ne fait pas des actions violentes, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, ah ben oui, ils ont peut-être été violents, mais être licencié, c'est pas violent aussi. Bon, voilà. Je suis désolé, pour l'instant, j'ai jamais entendu dire que Némésis avait ravagé une préfecture.
Voilà. Non, et je crois pas que ce soit exactement le projet, mais on posera éventuellement la question à Mathilda qui vient nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir.
Arnaud Stéphane.
Rare, oui, mais un vrai plaisir.
Mais qui n'appelle qu'à être renouvelé, ne vous en faites pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
À bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
C'était Arnaud Stéphane à l'instant dans la matinale de Ligne Droite du 26 février 2026. Un entretien à retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube ou encore sur le site rc.fr. Et on poursuit ce programme spécial en ce lundi de Pâques. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Dans quelques instants, vous entendrez Yvan Rioufol ainsi que Jean-Jacques Cordival. Mais avant cela, eh bien, saviez-vous que la France a été pionnière en matière de censure sur les réseaux sociaux? C'est en tout cas le constat que nous partage Natacha Polony. Je vous propose de l'écouter. C'était le 13 mars dernier au micro de Richard de Seize et en compagnie de Xavier Van Leerd.
Ligne à droite. Le grand entretien.
Bonjour Natacha Polony.
Bonjour.
Voilà. Merci d'être venue à notre invitation pour nous présenter le numéro 2 de L'Audace, qui censure qui. Donc L'Audace, c'est cette revue trimestrielle que vous avez lancée il y a 3-4 mois.
Mais oui, ça c'est le numéro 2. Donc le premier numéro est sorti au mois de décembre. Et là, donc depuis le mois de mars, nous avons en kiosque, en librairie et disponible sur abonnement cette revue qui fait 150 pages et qui se veut, on va dire, une revue pour rassembler tous ceux qui n'ont pas envie de se résigner, qui croient que la France mérite mieux. Donc nous croyons en la possibilité de redresser la France et en particulier de la redresser par la production sur le sol français. Voilà à peu près l'idée de base. Et le principe, c'est d'accueillir tous ceux qui viennent de tous horizons, mais qui se rejoignent là-dessus. Après, on peut penser différemment, on peut débattre. C'est le principe de la démocratie.
Eh bien, voilà, soyons démocrates et débattons-en. On va commencer justement par notre maître à tous, Emmanuel Macron, et la manière dont il est particulièrement attaché à la liberté d'expression, puisque qui censure qui, c'est tout l'objet du dossier de ce deuxième numéro.
Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows how you are guided through this so-called free speech. Especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech.
Et donc, free speech is pure bullshit.
Voilà.
Vous aviez commencé évidemment votre dossier bien avant que Emmanuel Macron nous livre la quintessence de sa pensée. Que pensez-vous du fait que free speech is pure bullshit et qu'il n'y a que des hatred discourse on the net?
Alors, en effet, c'est pourquoi j'avais voulu faire ce dossier, justement parce que je pense que la question de la liberté d'expression et de la liberté en général et la définition que nous en donnons va être un des sujets essentiels dans les années qui viennent et qu'il faut absolument essayer de le penser à notre manière, puisque le free speech, c'est véritablement une conception américaine, fondée sur le premier amendement de la Constitution américaine. Et il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, en fait, reproduisent une vision, une façon d'organiser l'espace public qui relève de la culture américaine. Je veux dire, les réseaux sociaux reposent sur le free speech et sur une forme de communautarisme, en créant justement des communautés. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, enfin, ce qui me semblait absolument nécessaire à expliquer aux gens, c'est cette question de savoir comment on régule l'espace public et à quel moment on bascule dans la censure. Parce que tout le problème que nous avons, et les positions d'Emmanuel Macron sont révélatrices, c'est qu'en fait, la France a été pionnière dans une forme de censure de ce nouvel espace public que sont les réseaux sociaux. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la liberté d'expression, c'est le droit de dire n'importe quoi et de se laisser aller à ses pulsions. En revanche, mon attachement à tous les principes de l'humanisme et des Lumières, donc toute la pensée européenne et en particulier française depuis le XVIe siècle, m'incite à penser qu'il faut faire confiance en l'intelligence humaine. Nous partageons la raison universelle et le principe de la démocratie, c'est ça. Ça s'appuie sur cette idée que chacun est doué de raison. Donc le problème, ce n'est pas d'empêcher les discours qui nous déplaisent ou que nous jugeons déraisonnables, mais par l'éducation, de susciter le fait que chacun puisse user de sa raison. Or, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que l'Union européenne, en s'inspirant des tentatives et des régulations pensées en France, a petit à petit mis en place une façon de censurer les discours qui semblaient déplaisants. Et moi, mon problème, c'est que les discours haineux,
le DSA,
je ne sais pas ce que c'est. Voilà,
le bouclier démocratique.
Voilà, le Democracy Shield, pensé par Ursula von der Leyen. Tout ça, en fait, c'est une façon, petit à petit, de considérer que certains discours posent problème. Et on l'a vu dans différents exemples récents. Par exemple, quand on interrompt un processus démocratique en Roumanie, au motif qu'il y a eu des ingérences russes. Alors d'abord, on s'aperçoit que les ingérences russes sont assez peu documentées en la matière, même s'il y en a beaucoup. Hein. La Russie fait des ingérences, comme d'autres pays d'ailleurs. Hein. Justement, ce n'est pas le seul. Mais nous nous focalisons tous sur les ingérences russes. Mais là, en l'occurrence, dans ce processus électoral, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui s'est passé. Et pour autant, on décide d'interrompre une élection parce que le potentiel vainqueur ne pense pas bien. Et je considère que c'est quand même assez problématique comme façon de voir les choses. Et vous savez, c'est assez significatif. C'est-à-dire que quand on écoute Emmanuel Macron parler, par exemple, de la régulation des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans, ce qu'il a peut se concevoir, un enfant n'est pas un citoyen autonome et responsable. Par définition, si on a différencié mineur et majeur, c'est parce qu'il faut protéger les enfants de ce qui peut les menacer. Mais quand Emmanuel Macron, à partir de là, vient dire « Vous comprenez, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, en trois clics, vous êtes confrontés. » Alors, il prend l'exemple des discours islamistes, et là, c'est tout à fait légitime. La loi de 1905, par exemple, est extrêmement dure contre les prêcheurs. Ce n'est pas pour rien, c'est justement pour préserver la liberté des individus. Mais juste après, il dit, et puis vous comprenez, en trois clics, vous tombez sur des propos d'extrême droite. Et là, en revanche, pardon, mais c'est une divergence politique. Et oui, so what? Le citoyen est libre d'adhérer à des idées d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre. Et ce n'est pas à la puissance publique de décider qu'il y a des propos politiques qui sont déplaisants.
Alexandre de Galzin.
Oui, Natacha Polony, la France a toujours été pionnière un petit peu dans la censure. C'est-à-dire que ça fait quand même des décennies que, d'ailleurs, même dans toute l'Europe, en fait, on est pris un petit peu comme modèle de régulation de la liberté d'expression. Et si on fait un historique, il y a évidemment un point marqueur dans les années 90 qui est la loi Guesso. Et beaucoup de gens, en fait, font remonter tout le problème des lois actuelles jusqu'à la loi Avia, etc., à cette loi Guesso qui, en fait, est un débat qui s'est poursuivi jusque dans les années, 2010 et qui est un petit peu mort depuis. C'est est-ce que on peut... est-ce qu'on doit faire confiance au débat pour contredire même, les mensonges historiques, même les opinions les plus condamnables, moralement, est-ce qu'on doit aussi les condamner de manière judiciaire? On a l'impression qu'il y a donc tout cet historique, et vous, est-ce que vous pensez qu'il y a eu cette idée d'enterrer, l'intelligence et d'enterrer l'idée qu'on puisse convaincre les gens de la vérité?
Alors, en effet, la question des lois dites mémorielles est une question extrêmement importante en la matière. Je fais partie de ceux qui considèrent que même si c'est pour des raisons tout à fait louables qu'on a pu mettre en place ces lois, elles posent problème. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par la justice qu'on combat des idées. Ça ne marche pas. Et la meilleure preuve, si on prend la question de l'antisémitisme, c'est que la loi Guesso n'a absolument pas empêché la progression de l'antisémitisme. Je fais partie de ceux qui ont alerté assez tôt mes premiers articles en tant que jeune journaliste dans les années 2000, était sur la question de la montée de l'antisémitisme dans les collèges, de lycées et banlieues, dans les collèges et lycées de banlieue. Et à l'époque, on me traitait de raciste pour avoir alerté là-dessus. Donc je pense en effet que c'est un sujet. Mais combattre ça juridiquement, c'est mettre le doigt dans un engrenage assez problématique parce qu'en effet, on a créé une espèce de concurrence mémorielle. Donc il a fallu ensuite créer des lois pour interdire la négation des autres génocides reconnus. Il a fallu créer des lois sur l'esclavage et on ne sait plus où ça s'arrête. Pour ma part, je le disais, je fais confiance en la raison humaine. Ça nécessite quoi ? Ça nécessite que la puissance publique organise cela par l'éducation. Et le problème que nous avons, c'est que l'école a été systématiquement détruite. La capacité à transmettre des savoirs et à créer chez les enfants l'émergence de la logique, de la raison, de la rigueur, du sens de l'effort, tout ça a été détruit et on se contente parallèlement de réguler le discours.
Alors, on régule le discours, on y reviendra tout à l'heure, et notamment l'admirable Jean-Noël Barrot qui nous parle de l'international réactionnaire et du fait qu'il faut, je cite un ministre de la République, mettre au pas les réseaux sociaux. On en est effectivement à une pensée française de la liberté d'expression qui est très très éloignée du free speech américain. Je voudrais revenir sur une phrase de votre éditorial, ou plutôt de l'article qui ouvre ce dossier, « Ni le vacarme, ni le baillon, la démocratie », excellent slogan. Aujourd'hui, la sphère du Rassemblement National, de Reconquête et des médias du groupe Bolloré a préempté l'idée de la liberté d'expression, tandis que de la gauche activisme au centrisme macronien, on s'emploie à réguler ou même à censurer au nom du respect et de la raison, bref, au nom du bien. Étonnante et dangereuse inversion. Pourquoi y a-t-il une inversion ? En quoi
Ce que je veux dire par là, c'est que traditionnellement, la gauche, en tout cas, le camp qui se veut idéologiquement progressiste, dans l'histoire, dans les deux siècles qui nous ont précédés, se battait pour la liberté face à un conservatisme qui craignait l'émergence de cette liberté d'expression. Et on le voit, nous avons illustré toute ce dossier par l'ensemble des caricatures qui ont fait suite au débat sur le dessin de la poire de Charles Philippon. Vous savez, un dessin d'une poire qui ressemblait à Louis-Philippe, au roi Louis-Philippe.
Le voilà. Visage de Louis-Philippe peu à peu se transformant en poire en quatre étapes.
Voilà. Et Philippon a été condamné pour cela. Et en fait, les quatre poires, c'est une réponse à cela, puisqu'en fait, il dessine Louis-Philippe petit à petit, ressemblant de plus en plus à une poire, et c'était son plaidoyer devant les juges pour dire « Mais si vous condamnez ce dessin, vous condamnez celui d'à côté qui ressemble, et donc celui d'à côté qui ressemble encore. Donc finalement, il faut condamner tous les gens qui dessinent une poire. » Bon, il a perdu.
Les juges ont dessiné, ils n'ont pas été sensibles à l'argument qui est excellent. Effectivement, voilà. C'est l'un des intérêts de ce dossier, c'est vous raconter cette histoire-là. Mais malgré tout...
Oui, bah... alors je reviens sur votre question. C'est que ce qui me semble frappant aujourd'hui, c'est que je pense en effet que, alors même que historiquement, le camp qui s'intitulait la gauche, mais encore faudrait-il faire l'histoire de la droite, de la gauche et toutes ces idées-là, on n'a peut-être pas le temps ce matin, mais dans l'histoire du 19e siècle, le camp progressiste libéral se bat pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. C'est donc absurde de le voir aujourd'hui s'emparer de la censure au nom du bien. De l'idée qu'il se fait du bien, mais on le voit très bien.
C'est moins absurde une fois qu'on sait qu'ils tiennent le pouvoir et que bizarrement, une fois qu'ils détiennent le pouvoir, ils ont envie de le garder. Mais...
C'est toujours comme ça, en effet, et je pense que c'est une des raisons. La deuxième, et qui à mon avis est sans doute la plus importante, c'est le fait que petit à petit, vous avez un réflexe moral qui a imprégné le débat politique. Et moi, ça me frappe depuis des années. J'avais écrit avec Jean-Michel Quatrepoint, journaliste qui est celui qui m'a tout à appris sur les questions économiques et géopolitiques, nous avions signé un livre, c'était en 2018, qui s'appelait « Délivrez-nous du bien » et qui était pour expliquer justement comment des minorités agissantes essayaient de faire pression sur la société pour au nom du bien, interdire certaines pensées, certaines idées. Donc ce discours minoritariste, justement, nous montrions dans ce livre à quel point il venait de la conception même de l'espace public tel qu'il existe aux États-Unis. Et ça ne s'appelait pas encore le wokisme quand nous avons écrit ce livre, mais c'était à peu près ça. Et donc, je pense que tout le problème est qu'en réaction à cette vision très puritaine de la pensée et de l'espace public qui s'est développé dans une part de la gauche et de l'ensemble des, on va dire, de la sphère dite libérale et qui donc l'est de moins en moins, eh bien, vous avez une réaction qui consiste à défendre la liberté d'expression, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le trumpisme qui a prospéré sur cette défense de la liberté d'expression n'est pas le meilleur défenseur de cette liberté d'expression. Et on voit à quel point, en général, vous avez tout à fait raison, quand on détient le pouvoir, on fait taire ceux qui pensent différemment.
Alors, le Trumpisme, effectivement, est une espèce d'accident industriel de la liberté d'expression, mais on se rend compte qu'avant que Trump ne s'empare des réseaux sociaux, les réseaux sociaux eux-mêmes avaient en fait rendu au peuple une liberté de parole qu'il n'avait plus. Les journaux finissent par être de moins en moins nombreux, les chaînes de télévision, évidemment, ne permettent pas un accès à tous à l'information et à la parole, et là, brusquement, n'importe qui pouvait balancer un tweet, un post Facebook, une image Instagram et devenir du jour au lendemain un compte qu'on suit, avec parfois d'ailleurs d'excellents comptes, Vanguard, avec tout ce compte qui est admirable sur de statistiques, y compris sur l'immigration, fait un travail de sourcing de l'information, comme on devrait parler, de recherche, pardon, de l'information et de mise en forme de l'information. Voilà, que les mannes de Jean Ferret m'excusent, et que ce cochon voit pouvoir sur lui une pluie d'or, je les ferai teinter tout à l'heure. Et donc, il y a dans les plateformes des réseaux sociaux une véritable démocratie, une véritable liberté d'expression, indépendamment du free speech quand même.
Alors, plusieurs points. Historiquement, quand une technologie apparaît qui permet de diffuser la parole et le savoir, et c'est le cas dans toute l'histoire humaine, vous avez un formidable élan de liberté. Je veux dire, l'invention de l'imprimerie, ça n'est rien d'autre que la possibilité de diffuser la parole et le savoir, et c'est cela qui enclenche le mouvement humaniste, puis les Lumières, donc c'est absolument formidable. Et on l'a vu également avec Internet. J'ai commencé donc comme jeune journaliste sur les questions d'éducation, je le disais, dans les années 2000. C'était assez intéressant puisque Internet naissant a permis à des professeurs dissidents de se rassembler. Mon premier article pour le journal Marianne à l'époque, donc en novembre 2002, s'intitulait « 10 mesures pour sauver l'école républicaine ». Et j'étais allée interroger notamment les professeurs qui s'étaient rassemblés dans un collectif « Sauver les lettres » et qui étaient les premiers à faire des petites expériences, comme faire passer la dictée du brevet des collèges des années 1980 à leurs élèves pour s'apercevoir que le niveau s'était effondré. Et je me souviens qu'à l'époque, mes confrères journalistes me disaient « mais ce ne sont pas des sources fiables, il faut aller interroger la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, les syndicats, ça ce sont des sources officielles, mais tous ces profs là, c'est pas représentatif et c'est pas vrai ». Et derrière il y avait « non, le niveau ne baisse pas ». Donc, bien entendu que ça a été un outil formidable. Et les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Le problème est que les réseaux sociaux sont donc une forme de nouvelle agora, sauf qu'il faut toujours s'interroger sur la structure avant de s'interroger sur le contenu des débats. Et la structure, nous ne la maîtrisons pas. La structure, ce sont des entreprises privées de la tech américaine, créées par des gens qui ont une conception de l'espace politique qui est extrêmement problématique dans la mesure où ces gens-là ne sont pas des démocrates. Ce sont, pour le dire un peu simplement, des anarcho-capitalistes, c'est-à-dire des gens qui considèrent que leur propre réussite repose sur leur génie et qu'en termes de darwinisme, ils sont beaucoup plus légitimes que les autres puisqu'ils sont plus intelligents. Et donc, la démocratie est un vieux truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, la structure des réseaux sociaux repose sur cette idéologie-là et sur le fait que ce sont des entreprises privées qui ont besoin de faire du fric, de faire de l'argent avec l'économie de l'attention. Donc, est-il raisonnable de déléguer notre espace public et notre espace de débat à des entreprises qui ont intérêt à manipuler par les algorithmes la diffusion des idées, parce que leur but est de nous maintenir captifs le plus longtemps possible, de nous vendre de la publicité et derrière d'utiliser notre temps de cerveau humain disponible pour faire gagner beaucoup d'argent à tous ceux qui vont à la fois utiliser nos données et nous diffuser de la publicité. Bref, notre problème, et il faudrait toujours en revenir là, ce n'est pas de savoir si nous allons réguler le contenu des réseaux sociaux. Je pense que ça relève de la censure et que c'est la mauvaise manière de prendre les choses. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas souverains. C'est que nous avons abandonné tous les outils qui nous permettent d'être libres et de décider pour nous-mêmes. La souveraineté, c'est la définition même de la démocratie, puisque c'est la capacité à décider en dernier ressort. Eh bien, toutes nos infrastructures critiques en matière de numérique dépendent des États-Unis et on commence seulement, il était temps, à se dire que peut-être cette idée que les États-Unis peuvent couper ces infrastructures critiques est un réel problème. Regardez par exemple la façon dont Microsoft a coupé l'accès à leur boîte mail à toute l'équipe du procureur au tribunal pénal international après que celui-ci a mis en place une enquête contre des dirigeants israéliens dans le cadre du conflit en Israël.
Microsoft, Visa, voilà. Amazon.
Exactement, la demande évidemment de l'administration américaine. Donc c'est pour ça devrait nous préoccuper beaucoup plus que de savoir s'il y a des propos problématiques, haineux.
Ou prétendumentels.
Voilà, mais le problème, et encore, quand on dit propos haineux et ou prétendumentels, je vous engage à lire dans notre dossier l'article de Fabrice Épelleboin, qui est un des meilleurs spécialistes de ces questions-là, et qui explique bien que la définition des propos haineux est en train de s'étendre, et qu'en fait, l'Union européenne s'organise pour bloquer des propos qui sont légaux, mais qu'on considère comme problématiques pour la vie civique et pour la démocratie.
On va y revenir avec une question d'Alexandre de Galzin dans 32 secondes, le temps que je signale évidemment que l'Union européenne a fait exprès de choisir de dépendre des États-Unis plutôt que de produire comme la Chine un écosystème digital numérique complet avec ses propres plateformes et qui du coup permettent à la Chine d'être indépendante de la souveraineté américaine. Alexandre de Galzin.
Oui, alors un de vos grands sujets, et vous en avez parlé pendant cet entretien, c'est quand même évidemment l'éducation. Vous constatiez en 2002 donc une baisse du niveau depuis 1980. On imagine ce que c'est aujourd'hui depuis 2002, d'autant que ça va souvent de plus en plus vite. Est-ce qu'un peuple qui est abruti, qui a plus d'éducation correcte, qui sait plus s'exprimer, même qui a perdu une grande partie de son vocabulaire, en fait peut vraiment justement débattre et d'une certaine façon, en fait, vous dites que vous croyez à la démocratie, que vous croyez justement à l'idée de convaincre, mais en fait on a l'impression parfois que vous êtes un peu la seule d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent un régime autoritaire, par exemple. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les enquêtes d'opinion, plus de 40% des Français. On a l'impression que l'idée de censurer l'adversaire, d'ailleurs, ne pose pas tant de problèmes que ça, moralement, aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu la dernière, justement, dans votre bunker à défendre toutes ces idées-là, alors que le reste du peuple, finalement, à la fois s'abrutit et à la fois ne croit plus à tout ça?
Alors, premier point. Si on résume la pensée
vous
de Condorcet...
Vous n'êtes pas seul, Natacha, on est avec vous.
Évidemment que je ne suis pas seul. Premier point, en 1791, Condorcet écrit les 5 mémoires sur l'instruction publique dans lesquelles il explique pourquoi la puissance publique doit l'instruction au peuple. En gros, c'est parce que, justement, sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Donc, il faut faire en sorte que chaque futur citoyen soit souverain pour lui-même, c'est-à-dire ne dépende pas d'autrui pour son jugement. Ça ne veut pas dire que nous serons spécialistes de tout, mais si nous avons le minimum des savoirs universels et de la logique et de la raison qui nous permet de penser, alors nous savons déterminer, en entendant des discours d'experts, lequel nous semble le plus correspondre davantage à ce que nous voulons.
Et c'est qui en délègue son autorité.
Et le problème, ce sont les discours que j'entends depuis des années, qu'on peut appeler en termes savants l'épistocratie, c'est-à-dire le pouvoir des sachants. C'est cette idée qui consiste à dire « Non, mais les problèmes sont beaucoup trop compliqués, on ne peut pas les laisser aux gens, ils ne maîtrisent pas ça. Voilà. » Et ça, ça permet de se détourner petit à petit de la démocratie, hein, au nom du fait que tout ça est trop compliqué pour ces abrutis que sont les citoyens. Bah, je crois que c'est justement l'inverse, c'est-à-dire qu'en effet, j'alerte sur la baisse du niveau, sur la dégradation de l'école. Pour autant, je n'ai pas trouvé de système meilleur que la démocratie, de systèmes qui répondent mieux à l'idée que je me fais d'un être humain. C'est-à-dire que pour ma part, je considère que ce n'est pas parce que j'ai une agrégation de lettres et Sciences Po que ma voix vaut plus que celle d'une aide-soignante. Pourquoi ? Parce que j'ai un vieux fond, non pas marxiste, mais je considère quand même qu'il y a un principe de classe et que nous avons tendance, malgré tout et malgré notre bonne volonté, à petit à petit faire prévaloir dans notre pensée nos intérêts de classe. Et donc, si on donne le pouvoir à ceux qui sont les plus diplômés, etc., ils vont petit à petit défendre leurs intérêts de classe, et c'est ce que nous voyons, au détriment des gens qui sont ailleurs, qu'on ne regarde pas, qui sont dans des territoires qu'on oublie. Et ça, c'est absolument inadmissible. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas défendre les intérêts des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Or, nous sommes dans un pays qui, à force d'avoir détruit l'école, a petit à petit détruit l'ascenseur social. Donc les élites ne se renouvellent pas et nous sommes en train de crever de tout cela. Et ça, je crois que je ne suis pas du tout la seule à le penser. Pourquoi ? Parce que quand on fait dire aux gens qu'ils veulent un régime autoritaire en posant des questions très très précises dans des sondages, on peut faire dire beaucoup de choses hein, aux gens à travers des sondages. Mais en fait, qu'expriment les Français ? Ils expriment le fait qu'ils veulent de la volonté politique. Pourquoi ils demandent une personne autoritaire ? Ce qu'ils veulent, et on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis avec le Trumpisme, c'est exactement la même chose. Ils veulent quelqu'un qui fait, qui se retrousse les manches et qui fait ce qu'il dit et qui ne vient pas dire « Non mais je ne peux pas parce qu'il y a la Cour pénale internationale, la Cour de justice de l'Union européenne, la CEDH, le Conseil d'État, etc. qui bloque. Donc vous avez voté pour cette politique-là, mais je suis désolée, on ne va pas l'appliquer. » Or ça, cette dérive-là, nous la voyons depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on a mis en place des instances qui petit à petit encadrent la souveraineté du peuple. Or, la souveraineté du peuple, c'est la démocratie. Je veux dire, lisez la Constitution de la Ve République. C'est pas fasciste, la Constitution de la Ve République.
Ça a été fait par de Gaulle.
Oui, titre 1 de la souveraineté. Voilà. Donc la souveraineté, ça n'est pas un gros mot. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et par le biais du référendum. Voilà. Donc ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans l'expression de la volonté du peuple. Or, on essaye de la contourner systématiquement. Donc tant qu'on contourne la démocratie, en effet, les gens petit à petit se disent ça marche pas. Mais il suffit d'être démocrate, ça marche mieux.
Alors, il y a plusieurs manières pour faire en sorte que ça marche mieux. Par exemple, avoir des espaces de libre expression comme Radio Courtoisie ou lire d'excellentes revues comme l'Audace. On va quand même parler d'abord de notre paroisse. Comment faire pour que Radio Courtoisie soit cet espace de démocratie et de liberté d'expression ?
Eh bien, il est primordial de nous soutenir financièrement pour commencer en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et en envoyant vos chèques à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75016 Paris.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud, et j'en profite pour accueillir, non, gardez vos écouteurs, sinon vous n'entendrez pas Xavier, pour accueillir Xavier Van Lierde, journaliste à Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors, bonjour Xavier, nous avons commencé évidemment à explorer le passionnant dossier de l'Audace, la revue lancée par Natacha Polony il est en décembre 2025, c'est le deuxième numéro paru début mars, le troisième est déjà annoncé pour début juin,
Exactement, on
le voit
juin.
À la fin, voilà, on en profite d'ailleurs pour lire un très bon papier de Samuel Piquet, juste avant le bulletin d'abonnement, Il y a dans votre éditorial donc non seulement cette phrase dont on a un peu parlé sur l'inversion, mais il y a une autre phrase qui... Il y a plein de phrases, en fait.
Oui, de fait.
Tout à fait intéressante.
C'est curieux, ce besoin. Voilà, j'ai marre de faire des phrases.
Ursula von der Leyen annonce un bouclier démocratique alors même qu'elle se garde de toute politique de souveraineté industrielle et numérique, on l'a un peu abordé, pour protéger l'Union européenne de l'impérialisme de plus en plus agressif des États-Unis. On peut se demander s'il n'y a pas une confusion volontaire entre lutte contre les ingérences et muselage des opinions divergentes, avec pour résultat, une fois de plus, de paver la route des extrêmes droites. Qu'en pensez-vous, Xavier Van Gierde ?
Écoutez, je voudrais d'abord réagir à ce que j'ai entendu précédemment, c'est-à-dire au développement de Natacha Polony sur l'univers mental post-démocratique et même, à mon avis, post-politique des élites dirigeantes. Et je trouve que dans ce débat sur les réseaux sociaux, il y aurait une erreur à faire, c'est de regarder dans la direction où les gens qui souhaitent les réguler nous demandent de regarder, c'est-à-dire de se contenter d'évaluer la qualité des débats qui sont sur les réseaux sociaux, alors que c'est aussi une magnifique occasion, à mon avis, d'évaluer les élites elles-mêmes, d'évaluer ceux qui pointent les réseaux sociaux, d'évaluer leur légitimité à pointer la délibération démocratique ou délibération politique. Moi, je trouve que c'est extrêmement révélateur, en réalité, j'espère que vous n'en avez pas parlé avant, mais de la mutation des élites dirigeantes. J'ai l'impression qu'on est confronté à des gens qui sont dans un univers qui n'est plus politique, mais qui est en réalité techno-managérial. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le macronisme, c'était une sorte d'apothéose, hein, parce que, bon, on peut rappeler, pour moi, c'est un dévoilement, le macronisme, dévoilement de quelque chose qui était déjà là précédemment. Rappelons, hein, la volonté de s'inscrire par-delà les partis. Les partis, c'est quand même un des instruments de la délibération politique. Aussi par la façon dont il a recruté ses premiers députés sur CV dans la dite société civile, c'est-à-dire en réalité parmi des élites managériales. Mais encore par son goût des instances qui court-circuitent le Parlement, autre lieu de délibération. Mais encore par sa manie des conventions prétendument citoyennes, mais qui ressemblaient quand même furieusement à des sortes de séminaires d'entreprise où seul lui-même et quelques experts avait la parole. Et donc, je me demande si en fait ce débat-là n'est pas le moment où apparaît le fait qu'effectivement nos élites sont passées dans un autre mode de gouvernance. D'ailleurs, vous avez remarqué que gouvernance, c'est quand même un terme aussi qui est issu du monde de l'entreprise. On n'est plus dans le gouvernement des hommes, on est dans la gouvernance. Et la gouvernance, ça consiste plutôt à appliquer des normes, à faire primer la norme sur la parole citoyenne, et vous nous en avez parlé, des experts. Mais c'est au-delà des diplômes, je pense que c'est au-delà des diplômes qu'évoquait Natacha Polony, à la limite que des gens qui ont réellement plus de connaissances puissent voir leurs paroles avoir un écho plus important dans la société. Pourquoi pas, à la limite? Pourquoi pas? Il y aura peut-être presque une correspondance avec un idéal qui est encore peu ou prou celui du 18e. Mais là, on n'est plus dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les gens dont la parole est autorisée ne sont pas spécialement des gens qui ont plus de connaissances, mais des gens qui ont plus de conformité avec le projet, car l'univers mental du monde techno-managérial, ce n'est pas tant la connaissance que la norme et la conformité. Voilà, je peux pas le dire autrement. C'est un univers en quelque sorte où la délibération, la libre parole est vue comme un dysfonctionnement, quelque chose qui va faire bugger le programme et le projet. Je pense que l'univers, c'est celui en quelque sorte de la conduite du changement, pour reprendre une discipline qui leur est propre. Et justement, dans toute une première phase, lorsque les réseaux sociaux étaient encadrés par des gens qui étaient leurs alliés, on a vu que ça ne les dérangeait pas. Parce qu'ils étaient envisagés comme une façon de conduire les peuples dans la direction, c'était notamment le cas lors des révolutions arabes, où on allait pouvoir encadrer la direction prise par cette grande agora. Depuis, ce n'est plus encadré. Il y a eu un certain nombre de... Enfin, par nature, ces réseaux sociaux, en réalité, permettent une expression peu maîtrisée. Et donc, je pense que ces deux univers entrent en collision. Il y a l'ensemble des institutions qui avaient été mises en place pour brider la parole populaire, pour encadrer cette parole, explose à cause des réseaux sociaux. Et donc, je pense que voilà, plutôt que de simplement évaluer les réseaux sociaux, il faudrait évaluer les évaluateurs, en quelque sorte. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut traiter les managers en entreprise. Il faut évaluer les managers plutôt que de se laisser évaluer perpétuellement par eux. Voilà la réflexion que
Et réflexion tout à fait pertinente. Alors, je le dirais peut-être en termes presque plus économiques. C'est-à-dire que j'inscris ce débat sur la régulation des réseaux sociaux dans un débat plus fondamental, c'est ce que j'esquissais tout à l'heure, sur le contournement de toutes les instances démocratiques progressivement par un système économique qui a intérêt à se débarrasser de cet élément gênant qu'est le peuple. Et ça, ça s'est mis en place dans les années 1970. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit évidemment émerger à la fois à travers l'OMC, à travers l'acte unique européen dans les années 1980, tous les outils qui permettent petit à petit de priver le peuple de sa souveraineté. Pourquoi ? Il faut bien comprendre qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les sociétés européennes se structurent autour de l'idée que plus jamais ça. Et que donc on va apporter au capitalisme des régulations qui vont empêcher ce qui a provoqué la crise des années 30. On est dans une vision qui repose sur le programme du Conseil national de la résistance en France et plus largement dans l'ensemble du monde occidental sur l'idée qu'il y a des protections sociales, qu'il y a, non pas le libre-échange mais la régulation des grands monopoles et tout ça. Et ça ennuie terriblement les grands intérêts qui aspirent à se constituer en monopole. Dans les années 1970, en 1971 pour être précise, les États-Unis se retrouvent dans une situation compliquée. Leur économie va mal. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer la guerre du Vietnam, parce qu'il faut payer la course aux étoiles. Et donc, ils décident de sortir de ces régulations financières, notamment la conférence de Bretton Woods de 1944. Donc, unilatéralement, ils décident de décorréler le dollar et l'or. La conséquence de cela, c'est la naissance de l'ingénierie financière, de l'industrie financière, c'est-à-dire le découplage de l'économie réelle et de la finance. Et la conséquence immédiate, c'est, à travers l'avènement de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, la mise en place de ces outils de dérégulation de l'économie, le mythe du grand marché mondial qui ne sera régulé donc que par la norme, en effet. Et donc on est dans cette phase où on va petit à petit permettre la division mondiale du travail pour le plus grand bonheur des multinationales. Tout cela se met en place donc dans les années 1980-1990. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on appelait la troisième gauche qui a amplifier cette dérégulation, Tony Blair, Bill Clinton, etc.
Bah, Laurent Fabius, le marché à terme des instruments financiers, c'est quand même une des inventions du premier septennat Mitterrand.
Voilà, et ensuite ça s'est poursuivi sous Lionel Jospin, qui a été le premier ministre qui a le plus libéralisé. Bon. Et l'Union européenne devient d'ailleurs le poste avancé de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire cette idéologie fondée sur le dogme du libre-échange absolu et de la dérégulation. Avec ce paradoxe d'ailleurs, c'est qu'on a une inflation administrative pour permettre le règne de la norme, du droit et du marché. Et tout cela, nous arrivons au bout de ce système en fait. Pourquoi nous arrivons au bout ? Parce que ce système a consisté à contourner systématiquement la volonté des peuples. Quand je parlais tout à l'heure du droit, de la CEDH, de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit a permis de dire aux populations, par exemple, vous trouvez qu'un prêcheur islamiste d'origine nord-africaine doit être envoyé dans son pays, eh bien vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui vous dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas parce qu'il a droit à une vie familiale stable ». Voilà, c'est ça le droit, on contourne toutes les demandes des citoyens qui s'exprime à travers le vote. Donc évidemment que le vote ne sert plus à rien. Le vote, petit à petit, est vidé de sa substance. Et donc, au fur et à mesure, vous avez des gens qui se détachent de la démocratie. Donc on voit l'abstention qui enfle. Et d'ailleurs, on peut remarquer que ce sont toujours les plus pauvres qui s'abstiennent au départ, parce que justement, c'est eux, ils n'ont que la politique. La politique, la définition, c'est changer la vie. Et là, ils s'aperçoivent que ça ne change plus la vie de voter. Donc, ils arrêtent, ils font sécession. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en la démocratie, ça veut dire qu'ils ont compris que là, en revanche, ça ne changeait plus rien. Et puis, on a rétabli une espèce de suffrage censitaire. Et je suis bien d'accord, ce sont des élites managériales, c'est-à-dire on a cette reproduction d'un même monde qui en fait, concentre les gagnants de ce système. Mais les perdants, eux, ils n'ont plus voix au chapitre. Et alors, ce qui est frappant, c'est que cette division en classe sociale recoupe une division géographique. Puisque nous sommes dans un système, en particulier en France, où la désindustrialisation a amplifié le poids des métropoles, en gros, les emplois de service se trouvent majoritairement dans les métropoles, alors que l'industrie, elle s'installe au contraire en dehors des grandes villes. Nous avons détruit notre industrie et nous nous retrouvons avec des métropoles hypertrophiées et des territoires entiers qui sont voués à la désertification. Et on peut faire l'histoire des villes moyennes françaises. Systématiquement, vous regardez, l'entreprise principale qui irriguait le pays disparaît. Derrière, vous avez les petits commerces qui ferment. Derrière, vous avez le centre-ville qui se vide, donc des problèmes d'insécurité. Vous avez les jeunes qui partent chercher du travail ailleurs, donc une baisse démographique. Et là, vous avez l'État qui vous dit « bah, on va fermer l'hôpital, puis on va fermer le tribunal, puis derrière, c'est même les boîtes aux lettres qu'on supprime ». C'est ça l'histoire de la France des 40 dernières années. Et ça, c'est le résultat à la fois de ce phénomène mondial qui est le néolibéralisme et en effet le règne de ces classes managériales qui sont les gagnantes du système, et c'est le résultat spécifique de l'aveuglement des élites économiques et politiques françaises qui ont considéré que l'industrie, ça ne servait à rien, puisque de toute façon, comme on dépasse les États-nations, on ne voit pas pourquoi il faudrait être souverain et produire nous-mêmes. Hein, ça, c'est vrai que produire des respirateurs, c'est pas grave de ne pas le faire quand il y a une épidémie mondiale, on l'a tous constaté. Mais on fait la même chose d'ailleurs avec l'agriculture que ce qu'on fait avec l'industrie. C'est-à-dire que là, on est en train d'éradiquer les paysans français. Et puis, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand il faudra nourrir la population mondiale et qu'il y aura une crise alimentaire, on s'apercevra que nous, on n'a plus de quoi produire et qu'on est dépendant sur à peu près tout. Je veux dire, on reproduit le même mécanisme à chaque fois. Et donc, je pense que, en fait, tous ces problèmes sont imbriqués. C'est-à-dire que la question démocratique, la question de la liberté d'expression, en fait, elle est liée à la réflexion sur le système économique. Parce que la souveraineté, ce principe démocratique fondamental, eh bien, ça doit s'appuyer sur des éléments concrets. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus les outils concrets de votre souveraineté, quand vous avez une énergie trop chère, quand vous n'avez plus d'armée, quand vous n'avez plus d'agriculture, quand vous n'avez plus d'industrie, ben vous n'êtes pas souverain. Après, vous pouvez vouloir, enfin, le peuple peut demander tout ce qu'il veut. On n'a plus les capacités, tout simplement, de répondre à cette souveraineté du peuple.
Alors, merci pour cette réponse. D'abord, merci pour la question très longue de Xavier. Merci pour votre
légitime
réponse très longue. Juste avant de redonner la parole à Xavier, une question. Effectivement, il y a un saint-simonisme d'État et Emmanuel Macron, dans Révolution et l'ensemble des ouvrages, montre à quel point il est pour ce gouvernement des experts, à quel point il est contre la nation. Et justement, c'est ce mot de nation qui n'existe pas. On dit peuple, on dit démocratie, on dit mondialisation. Le rempart que cherche le peuple, c'est le rempart de la nation. C'est le rempart de son territoire, c'est le rempart de sa langue. Et on sent bien que le problème de la liberté d'expression, quand on vise les idées d'extrême droite, en fait, on vise ceux qui expliquent, attention, je vis quelque part, j'appartiens à une commune, j'appartiens à une province, j'appartiens à un pays, et c'est ce pays-là en fait qui est haï par les élites, y compris les élites mondialisées. C'est le pays que le grand capital international ne veut pas voir exister.
Bah, vous savez, moi je viens d'un courant idéologique qui est, on va dire, au croisement de la gauche républicaine et du gaullisme social, c'est-à-dire Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire justement des gens qui à droite et à gauche, ont considéré que les États-nations n'étaient pas morts et que le lieu d'expression de la démocratie, le lieu d'organisation de la démocratie, ça reste l'État-nation pour des raisons historiques, parce que vous n'avez pas de démocratie quand vous n'avez pas de peuple. en effet, et que le peuple, il s'exprime dans le cadre d'une nation, c'est-à-dire du croisement entre une histoire et une volonté politique. Je crois tout à fait à la définition de la nation par Ernest Renan, qui définissait d'ailleurs la nation française en opposition avec la vision allemande de la nation. Et il expliquait que la nation française, ce n'est pas une nation ethnique, ce n'est pas une nation même linguistique, ça, il faut s'en souvenir. Non, il appelait ça alors un plébiscite de chaque jour, c'est-à-dire une dimension de volonté politique, mais il ajoutait, on l'oublie toujours, appuyé sur un legs de souvenirs communs.
Voilà,
c'est très important, la dimension historique, la dimension culturelle, parce qu'en fait, ce legs de souvenirs, il se traduit aussi par la littérature, par les arts, par la pensée. Le problème, c'est quand vous avez des populations qui arrivent, il faut bien leur transmettre ce legs de souvenirs. Sinon, en effet, à aucun moment, vous ne les intégrez à ce récit national pour faire en sorte de former cette communauté politique. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons détruit toute capacité à perpétuer une communauté politique. Donc on a un éclatement en individualité et en communauté. Et donc là aussi, ça détruit petit à petit la possibilité même de la démocratie.
Xavier Van Lierde.
Oui, j'étais frappé, c'est fascinant, on part des réseaux sociaux et on en vient à parler des modifications de l'aménagement du territoire, du destin des villes moyennes et de la façon effectivement assez frappante dont les élites se sont retrouvées finalement repliées dans des métropoles mondialisées et ont déserté ces campagnes à mesure que progressait la désindustrialisation, puisqu'effectivement, lorsqu'il y avait des usines, eh bien, il y avait aussi des managers dans les villes moyennes et ils étaient bien forcés de cohabiter, de vivre dans un lieu commun avec leurs ouvriers, par exemple. Mmh. Alors que, bien évidemment, dans un modèle capitalistique où il n'y a plus que des flux immatériels, on peut tout à fait s'extraire de ce monde sensible et pesant que celui de la production. Donc on se retrouve effectivement avec ces élites qui ont fait sécession dans les métropoles. Et là aussi, les réseaux sociaux, je trouve, donnent une clé de lecture de cette nouvelle attitude où des élites qui est celle, en réalité, d'une mise à distance. C'est-à-dire qu'on peut interpréter l'évolution de ces élites managériales comme une permanente volonté de mise à distance du peuple. Et dans les réseaux sociaux, par exemple, tel celui de Twitter, il était assez amusant de constater que les habitués... Twitter était plutôt le réseau des journalistes, des managers, des dirigeants, bref, des classes dirigeantes du pays ou des pays. Et à partir du moment où, dans l'élan post-gilet jaune, tout un certain nombre de gens qui n'appartiennent pas à cette caste-là investissent Twitter, eh bien, il y a une pulsion de voir, mais faites-les taire, qu'est-ce qu'ils racontent? Nous ne sommes plus entre nous. Ce qui les embarrassait, c'était de ne plus être entre eux, et c'était symptomatique cette façon dont ils ont voulu en migrer, partir. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait des déplorables qui avaient investi le réseau social, il fallait qu'ils en créent un autre. Vous vous souvenez de ce moment où tous ont dit, eh bien, on ne restera pas sur Twitter, vraiment, hein, c'est populiste ici, c'est pas bon, il y a trop de fake news, donc on va partir pour rétablir cet entre-soi dans un autre réseau social. Donc voilà, je voudrais vous faire agir sur cette Mais... idée que les élites sont prises d'une pulsion de mise à distance.
Alors, deux points. D'abord, entendons-nous bien, pour ma part, je déplore quand même qu'il y ait sur les réseaux sociaux un règne de la pulsion, de l'agressivité. Simplement, il n'est pas uniquement le fait, justement, de ce que Hillary Clinton appelait les déplorables. Voilà, ce règne de la pulsion, il est, hélas, provoqué par le mécanisme même des réseaux sociaux dans une société qui est organisée autour du capitalisme consumériste. C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe. Depuis tout à l'heure, nous parlons de l'importance de la raison et la façon dont la démocratie s'appuie sur cet idéal de raison universelle. Mais quand vous êtes dans une société dont la mécanique économique fonctionne sur le fait de déclencher des pulsions d'achat chez les gens, de toute façon, vous n'avez pas intérêt à ce que les individus soient des citoyens et utilisent leur raison, puisque votre intérêt, c'est de les manipuler en provoquant leurs pulsions. Donc, nous sommes face à ce paradoxe-là qui n'est jamais abordé. Ça, c'est le premier point, mais en tout cas, le déferlement des pulsions sur les réseaux sociaux reste un problème. Simplement, je pense qu'on ne le règle pas par la censure. Deuxième chose, il y a toujours eu une tentation des élites, quelles qu'elles soient, de pratiquer l'entre-soi. Bien sûr, c'est un phénomène humain, c'est une reconstitution permanente des privilèges. Ça nécessite, j'allais dire, en permanence de faire tomber les Bastilles, c'est-à-dire d'en revenir à cet idéal de 1789 qui est de sortir d'une société d'ordre et de se dire que quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre naissance, nous sommes tous égaux. Et donc, en effet, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, mais dans tous les phénomènes d'organisation de la société, c'est la tentation de la sécession des élites. Le problème, c'est quand l'organisation économique, puis finalement l'ensemble des structures institutionnelles favorisent cette sécession. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc il faut de nouveau lutter contre toutes les formes d'oligarchie. Et ça nécessite de revenir à cette définition de base. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous savez, moi, je passe mon temps à débattre avec des gens dont je m'aperçois qu'au fond d'eux, ils ne sont pas démocrates. Oui, vous citiez justement ce terme de déplorable qu'avait utilisé Hillary Clinton contre les électeurs de Donald Trump. Mais souvenez-vous du délire idéologique qui a émergé au moment de l'élection de Donald Trump, au moment du débat sur le Brexit, au moment des Gilets jaunes. Moi, je n'ai jamais vu autant de mépris de classe qu'au moment de l'émergence des Gilets jaunes. C'était d'une violence absolument incroyable contre des simples gens qui voulaient vivre dignement de leur travail, parce que c'est ça, au départ, le mouvement des Gilets jaunes. Et juste une chose, il faut se souvenir, à ce moment-là, parce qu'il est emblématique, que vous avez un ministre de l'Intérieur qui prend la parole pour dire « De toute façon, ces gens, ce mouvement, c'est la peste brune. » La peste brune des gens qui veulent vivre de leur travail. Eh bien, ce ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on le retrouve quelques années plus tard, donc l'an dernier, comme conseiller de Shein, c'est-à-dire une entreprise chinoise qui est en train de détruire l'industrie et le commerce français en faisant déferler des produits ignobles qui sont fabriqués dans des conditions qui détruisent la planète, qui ne respectent aucun droit social. Eh bien, ce monsieur qui a fait la leçon à des gens qui réclamaient la démocratie et le droit à vivre dignement, ce monsieur-là, ça ne le dérange pas de servir des intérêts étrangers et de détruire l'économie de son pays.
Oui, ou même d'être regardé dans d'autres institutions
Bien sûr. Notamment dans l'administration du port de Marseille.
Exactement.
Bon, alors, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de la liberté d'expression, mais on voit bien qu'en tout cas, c'est un sujet passionnant parce qu'il touche l'intégralité de la vie politique. Merci pour l'audace. Donc, la liberté d'expression, qui censure qui, c'est à la fois philosophique, mais aussi avec le grand article d'Epelboin, parfaitement documenté sur la manière dont la France puis l'Union européenne veulent nous empêcher justement de parler, la manière dont on dépend de la technostructure américaine. Merci beaucoup Natacha Polony d'être venue défendre l'audace
c'est
ce
moi
matin
qui vous remercie
sur Radio Courtoisie, et à bientôt j'espère.
À bientôt, au revoir.